J'ai pensé que on parle toujours de Jésus d'une manière un peu spéciale. La crèche, le Seigneur qui vient nous sauver, etc. Mais n'oubliez pas que, contrairement à la logique humaine, il est venu d'abord pour vivre une condition humaine toute simple et pour bosser. Pour bosser, pour travailler. Ça c'est choquant. Que Dieu s'intéresse d'abord à passer 30 ans, au moins 30 ans de sa vie, dans une condition relativement modeste, relativement humble dans le travail. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ? Je pense que le métier, c'est un don. C'est un don que Dieu nous fait. C'est un devoir aussi. On a des responsabilités quand on exerce ce métier. Et c'est aussi une compétence. Il faut s'améliorer et le faire de mieux en mieux. C'est un service. C'est pas simplement pour avoir un salaire et un résultat pour nous. C'est un service à la communauté humaine. C'est un service aussi à une entreprise, c'est un service à la société. Finalement, dans la répétition du travail tous les jours, pour un croyant, il peut le faire avec paix et joie s'il offre son travail à Dieu. C'est une oblation. C'est une oblation. S'il offre son travail à Dieu, c'est une oblation. C'est devenu un parfum doux et agréable à Dieu. Ça, c'est une dimension qu'un incroyant ne peut pas comprendre. Et même un chrétien superficiel, incrédule, ne peut pas comprendre. Mais je pense que, je vous le répète, le métier est un don, un devoir, une compétence, un service, une oblation. Dieu a-t-il voulu le travail ? Oui, évidemment, Dieu a voulu le travail. Évidemment qu'il a voulu le travail. Prenons différents textes, nous allons comprendre pourquoi. Dans Genèse, au chapitre 2, vous allez voir, il y a beaucoup de textes à lire aujourd'hui. En général, durant la prédication, je commence à ne plus avoir mal aux genoux. Merci Seigneur. Parce qu'autrement, je vous dis franchement, je le ferai 10 minutes, un quart d'heure maximum. J'ai remarqué ça, que le Seigneur m'annulait ce mal à ce moment-là. Merci Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 3, « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc, Dieu a créé, Dieu a fait une œuvre. Donc, le premier ouvrier, le premier être à être un travailleur, c'est Dieu. C'est Dieu, ne l'oubliez jamais. Jamais. C'est très important de relativiser notre petite personne et notre travail. Le premier travailleur, c'est Dieu. Et rendons-lui gloire. C'est pour ça que le septième jour, le Fils de Dieu, le Christ, se repose et rend gloire à Dieu. Et en rendant gloire, en disant merci à son Père du travail qu'il lui a donné, le travail de créateur, il l'honore. Et c'est ainsi qu'au chapitre 2, verset 1, il achève la création. Il l'achève par la reconnaissance, par l'oblation. Donc rappelez-vous toujours, le métier est un don, un devoir, une compétence, un service, une oblation, dont le premier est Dieu. Le Fils de Dieu est par excellence l'ouvrier de Dieu. C'est fort important. Vous pouvez deviner pourquoi j'ai dit que Jésus était né pour d'abord vous bosser. Parce que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, n'est jamais différent à la création, au départ, avant la création du monde, à la création, à l'incarnation, à la résurrection, à sa seconde venue. Il n'est jamais différent, il est toujours le même. Nous avons parfois des images très partielles, très pauvres de Dieu, et c'est très dangereux. Très dangereux, très appauvri. Alors, regardons dans Exode, chapitre 20, verset 10. Exode, chapitre 20, verset 10. Je ne savais pas, une demi-heure avant le culte, ce que j'allais prêcher, je vous le dis. Mais j'ai une caisse avec des centaines de prédications, et j'ai pris cette feuille-là. Et je me suis mis à table pendant une demi-heure, et j'ai relu mes notes. Mais parce que, c'est, quand j'ai une feuille de prédication d'une page et demie, j'y ai passé des heures. Et quand elle me retombe dans l'esprit, il y a des jours comme ça où j'ai pensé que j'allais prêcher quelque chose, et puis... Les bras m'en tombent, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Et je ne vois pas, je ne sens pas que le Seigneur me pose à le dire. Mais tout d'un coup, mais je vais aller voir, j'ai travaillé. Et Dieu m'a montré des choses. Je vais aller voir dans ma caisse et je tombe sur des choses comme ça. Et vous voyez, ce que je veux vous dire, ce n'est pas pour me mettre en valeur, c'est que tout travail est régulier et fidèle et est une discipline, un exercice répété de travail, même pour celui qui doit enseigner la Bible, même pour celui qui doit enseigner des enfants, etc. N'oubliez jamais ça. C'est pas sous des coups d'impulsion d'adrénaline qu'on travaille pour Dieu, selon la chair. Donc, Exode 20, verset 10. Le septième jour est le jour du repos de l'Éternel. Donc, je vous ai dit que c'était Christ, hein, parce que dans Colossiens, chapitre 2, vous voyez, tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Ne l'oubliez jamais, lisez Colossiens, chapitre 2, verset 14-15. Hein. Le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui y est contenu, il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Sanctifier, c'est rendre à Dieu, dans la louange et l'adoration, tout le sens, et tout ce qu'on a fait était pour Dieu. Donc, le thème qui a été annoncé par Vincent aujourd'hui, avec le chant, la servir Christ, etc., imaginez ce que ça veut dire pour Paul. Paul a souvent travaillé de ses mains pour fonder des églises. Paul a souvent travaillé de ses mains pour fonder des églises. Il y a eu, en d'autres circonstances, des gens généreux qui l'ont aidé, qui ont accordé de l'argent, ou alors des amis à lui, comme Aristarque, Silas, etc., qui travaillaient, Timothée, qui permettaient que lui soit plus libre. Mais il y avait toujours dans l'équipe de Paul des gens qui travaillaient pour arriver à fournir le travail de la parole de Dieu et le travail de la prière. Il y en avait toujours dans l'équipe qui travaillait. Et il faut bien se dire que c'est extrêmement indispensable de lier la foi, l'adoration et le travail. C'est souvent comme ça, Saint Benoît a créé dans le catholicisme la règle orare et labore, prière et travail. Et il y avait des temps pour le travail, pour la prière, etc. Et les abbayes ont fonctionné comme ça. Mais ça, c'est une déviance. C'est tout le peuple de Dieu qui doit prier et travailler et allier les deux. Ce n'est pas une affaire de spécialiste. C'est la condition des enfants de Dieu. Ce n'est pas une affaire de spécialiste. Et pourquoi est-ce qu'il fallait concevoir que pour prier et travailler, il ne fallait pas de femme, pas d'enfant. C'est aussi une règle qui est établie après, qui n'est pas divine. Et regardez ce que ça a donné, c'est que les abbayes sont devenus riches, sont devenus des puissances. À la Révolution française, au moins la moitié du territoire français appartenait aux abbayes. D'où la jalousie, la haine de la religion après qu'il s'est développé en France. Si nous dévions les principes de Dieu, prière et travail, et que nous leur donnons un sens, ben oui, il faut être petite bonne sœur, il faut être un petit frère avec un habit sur le dos, etc. Ben oui, forcément, si on a 200 à travailler ou 50, on va devenir riche. J'avais un ami, un grand ami moine, qui m'a dit, on a fait le vœu de pauvreté, c'est nous les plus riches de la région, dans une abbaye à 30 km. Mais quand il y avait des gens qui venaient là, dans la misère, eh bien, on téléphonait ou que j'allais les chercher. Ou on les amenait à minuit en jeep, habillés, en moine. On les amenait. Et pourquoi est-ce que ce moine-là me disait, allez là-bas, là-bas c'est la maison du bon samaritain, ici. Eux, ils pouvaient l'être, maison du bon samaritain. Mais non, parce que prier et travailler, mais déroger à d'autres règles de Dieu, n'amène qu'un péché plus grave. Ça, le fait de ne pas être marié, de ne pas avoir de vie de famille, de ne pas honorer la parole de Dieu, hein, dans Colossiens, clairement, Paul l'avait dit, attention, il viendra un temps où on dira de ne pas se marier, pas manger ceci, pas manger cela. Attention, c'est pour s'enorgueillir. Effectivement, c'est ça qui est arrivé. Il ne faut jamais mettre quelque chose à part de Dieu à part, et l'élever, et puis des autres choses de la part de Dieu, les mettre en bas. Il faut voir toute la vision de Dieu sur notre vie. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais voir une vision de Dieu complète. Alors, vous voyez que dans Exode 20, verset 10, le jour du repos de l'Éternel, Dieu lui-même, qui est l'ouvrier par excellence, le Christ, prend le temps du repos, c'est-à-dire de sanctifier le nom du Père, de lui rendre toute la création, de lui dire que tout lui appartient et que tout ce qu'il a fait est venu de lui. Toute sa compétence est venue de lui. Alors, je reprends la définition que j'ai dit, le métier, un don, un devoir, une compétence, un service, une oblation, tout vient de Dieu. Quand vous allez travailler, vous faites un travail, votre don vient de Dieu, votre devoir vient de Dieu, votre compétence vient de Dieu, votre service vient de Dieu, votre oblation est même un don de, une œuvre de Dieu. Et tout est en Dieu. Tout est en Dieu. Nous vivons en Christ, par Christ, pour Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5. Quoi que nous vivions ou nous mourions, nous vivons pour Christ. Parce que le Christ est le modèle du travail, de la prière, de la parole, de l'amour. Tel que nous devons le vivre. Alors, dans Genèse, chapitre 1, verset 28. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, mais je vous le dis, même si ça doit durer un mois, deux mois, trois mois, six mois, tenez bon. Tenez bon. Je suis certain que le Seigneur a des bénédictions. Genèse 1, 28. Et il ne faut pas rentrer en étant effrayé. On est que ça. Faites attention à ce genre de truc. Le diable peut vous menacer avec ça. On n'est pas que ça si Jésus est là. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Dieu les bénit, l'homme et la femme, hein, créés à l'image de Dieu, de Christ. Dieu les bénit et Dieu leur dit... Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand il est mis de dominer, si on regarde bien en hébreu, c'est gérer. C'est gérer, c'est être responsable. C'est le gérant pour Dieu. Ce n'est pas un dominateur destructeur. Et vous savez que l'homme a été appelé à donner un nom à tous les animaux, à tous. Regardez au chapitre 2, verset 19, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme, en donnant un nom à un animal, apprend à l'aimer et à le reconnaître. S'il ne lui donne pas un nom, c'est un objet. C'est un objet manipulable et détestable, utilisable à outrance. S'il lui donne un nom, il lui donne une reconnaissance. Et l'animal qui a un nom mérite le respect. Respect que Dieu a toujours voulu pour les animaux. Et au départ de la création, l'homme ne mangeait pas les animaux. C'est à cause du péché que cela est venu. Alors, nous voyons que le travail de l'homme, c'est pas simplement travailler la terre, gérer les animaux, c'est aussi donner un nom, c'est avoir une relation avec l'animal. Dans le travail, il y a une relation avec l'animal. Et moi, j'ai appris ça à la ferme, chez mon grand-père Arnoncourt, et ici, les animaux avaient tous un nom, et on avait une relation avec les animaux. Quand je partais travailler avec le cheval au champ, c'était un ami. C'était pas un ennemi ni un objet. Ça m'attriste de voir ici à un kilomètre dans une prairie, sous ce mauvais temps, des bêtes engluées dans la boue, qui n'ont pas d'abri et qui sont en train de souffrir dans la pluie glaciale, là, à un kilomètre au carrefour. Ça, on ne faisait jamais des choses comme ça étant petit, sauf un fou. Il y avait un cultivateur dans la région qui était fou qui faisait ça, mais aucun autre. Un détraqué. Mais maintenant, on dirait que les détraqués ont l'air d'être avoir pignon sur rue. Alors, c'est une fonction limitée, évidemment. Dieu n'a pas dit de travailler tout le temps. Il y a un septième jour pour travailler. Et ça, c'est dans Exode, chapitre 20. Hein? Vous le savez, nous l'avons lu. Il y a un septième jour. Ne l'oubliez jamais. Et ce texte dans Exode est fondamental. Il faudrait bien qu'on se rende compte que c'est capital. Pourquoi est-ce que ça a changé? Exode, chapitre 20. Verset 10, hein. Et je vais vous dire pourquoi c'était très important. Notre société était structurée, quand j'étais enfant, autour de la prière, le dimanche. Il y avait 1, 2, 3, 4 temps de prière dans le dimanche. Et il y avait un temps de prière tous les jours à l'église, pour ceux qui voulaient, qui pouvaient. Souvent les vieux, les enfants. Certaines femmes, certains hommes malades, mais ce qu'il y a, c'était structuré comme ça. Et puis se sont développées la sidérurgie, la métallurgie, les industries, et beaucoup de gens ont quitté l'agriculture, ont quitté la terre, et sont partis dans les industries. Et dans les industries, dans toutes ces usines et firmes, on a d'abord travaillé du lundi au vendredi. C'était comme ça, en journée. Puis on a travaillé progressivement de 6h à 14h et de 14h à 10h. Puis pratiquement on s'est dit, mais puisque les machines sont là, autant les faire travailler la nuit. Et puisqu'on avait surtout l'électricité, surtout des moyens d'éclairer les lieux de travaux, on a travaillé aussi de 10h à 6h. Donc, à un moment donné, les gens sont détraqués dans leur rythme naturel. Dans leur rythme naturel qu'ils avaient avant. Il y a 60 ans encore. C'est pas si vieux que ça. Et puis ensuite, on a dit, mais l'usine va travailler aussi le samedi. Donc, on va vous donner un peu plus d'argent pour venir le samedi. Puis, comme les gens refusaient de travailler le dimanche, on a donné le double du salaire. Alors, de plus en plus de gens ont quitté la vie de l'Église, la vie de prière, la vie organisée comme elle était avant, et ils ont consacré leur samedi et leur dimanche parce qu'ils gagnaient autant sur ces deux jours-là, sur 4 jours et demi de travail dans la semaine. Et qui étaient les organisateurs de ce mal moral et spirituel? Qui? Quand on regarde bien les actionnaires, tous les actionnaires qui étaient là, il y avait, pour tous les groupes sidérurgiques ici, jusqu'en fin de Lorraine, hein, Coqueril, Augré, Providence, etc., c'était les mêmes sur Liège, Charleroi, etc. Les actionnaires principaux allaient à la messe. Il y avait des athées, il y avait les athées de l'Université libre de Louvain qui étaient dans les conseils d'administration, mais il y avait aussi énormément de catholiques et il y avait la famille royale. Il y avait des catholiques pratiquants. D'un côté, je suis devant les évêques et la prière et j'offre de l'argent à l'Église, et j'encense les évêques et les rois. Hein. Mais de l'autre côté, j'amène le peuple à se séparer de Dieu et de la vie telle qu'elle était avant. Et ainsi, je pense que les responsables de notre société, les premiers, étaient des gens qui avaient un enseignement chrétien. Et notre société chrétienne, protestante dans le nord de l'Europe et aux États-Unis, et catholique dans beaucoup d'autres pays, est arrivée dans ses responsables à nier ce verset Exode 20, verset 10. Mais qui en a fait les frais? Le peuple. C'est le peuple qui s'est fait appâter par l'argent et qui a eu besoin d'argent pour s'acheter une voiture. Dès qu'il a eu plus d'argent, vous voyez, première voiture, le docteur, l'instituteur avait une voiture, etc. Et donc, ils ont voulu faire comme eux. Et puis, l'ouvrier avait sa maison. Il avait une écurie à côté, il avait 2-3 vaches, 2-3 cochons, des lapins, il avait un jardin. Et madame faisait tout ça, et puis s'occupait de ça. Monsieur, quand il rentrait, allait travailler au champ, comme mon grand-père, comme beaucoup que j'ai vu. Et puis, ah, mais puisqu'on a plus d'argent, on n'a plus besoin du cochon et de la vache. On va transformer l'écurie, on va faire un beau salon, un beau garage pour la voiture qu'on va acheter. Et le résultat, c'est que finalement, toutes les maisons ouvrières ici, de la Lorraine, de l'Ardenne et tout, même en Allemagne, ici alentour, ont laissé de côté ce travail de la terre et ce rythme de la prière. L'Église avait moins en moins de place. Et la relation à Dieu avait moins en moins de place. La responsabilité des grands qui sont toujours devant les caméras aux grands offices religieux. La responsabilité de ces grands est très grande. Ils ont conduit le peuple à la ruine spirituelle parce qu'ils ont mis leur argent de côté. En priorité, ils ont mis Dieu de côté. Le peuple a suivi. Et quand j'analyse l'histoire des rois d'Israël, c'est chaque fois comme ça. Les rois, s'ils sont tordus, le peuple devient tordu. Si vous avez un roi Josias ou Ozias, qui est bien, qui est sympa, qui honore Dieu, le peuple suit. Je vais dire que, tout simplement, les brebis suivent le berger. Les sujets suivent le roi. Le peuple suit les évêques et les cardinaux. Comme ils suivaient les prêtres à l'époque de Jérémie, d'Ésaïe, et si les prêtres étaient corrompus, le peuple était corrompu. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, les amis. Tout était structuré autour du métier, mais il y avait un rythme de prière. Et dans toutes les vieilles familles chrétiennes, vous avez un cadre et un chant, vous avez un homme et une femme qui sont comme ça et qui sont en train de prier. Vous connaissez cette peinture qu'on a trouvée partout dans toutes les maisons à une certaine époque, l'homme et la femme étaient debout et s'arrêtaient au milieu du travail pour prier tous les deux et rendre grâce à Dieu. Mais moi, je l'ai vu quand j'étais petit. Je l'ai vu dans les champs quand j'étais petit. C'est pas qu'une peinture. Et j'ai vu dans le village ici, il y avait un évangéliste, un couturier, un homme qui était couturier, et il était chrétien évangélique. Un seul parmi des villages comme ça, considéré, bien sûr, comme un lépreux, par beaucoup. Mais il allait dans les champs quand il arrêtait son travail pour un certain temps. Il allait dans le champ, un peu, je dirais bien, je verrais bien Alexander comme ça. Il quittait, il allait dans les champs avec sa Bible, il allait tout près des paysans et des paysannes, et il leur lisait un texte, il leur parlait. Naturellement, il y en avait qui disaient, mais ils ne cassent pas les pieds avec ça, parce qu'ils étaient catholiques. Mais il y avait tout de même beaucoup de gens qui étaient humbles, qui écoutaient. Il y avait quelques orgueilleux, très durs, mais... Et dans ceux qui écoutaient, il y avait mon grand-père. Et toute la morale de mon grand-père, je vous le dis franchement, je la vois comme la Bible. Toute la morale et sa vie de prière, dans le secret de son cœur, dans sa chambre, je la vois partie de ça. De cet homme qui passait dans le champ avec la Bible. N'oubliez jamais qu'un peuple a besoin de travail, a besoin d'un temps de repos, a besoin d'un temps de prière et d'adoration, a besoin de responsables honnêtes et propres qui respectent les lois de Dieu, qu'un peuple a besoin d'avoir des témoins de la foi qui apportent la parole. Si vous avez tout ça, la société doit bien fonctionner. Et regardez où on en est maintenant. Ça s'est émietté. J'ai vu ça sur... J'ai 71 ans. J'ai vu ça depuis 60 ans, moi. J'étais très observateur quand je vois les deux enfants, les deux petits-enfants de Véronique et de Vincent. Je me dis, mais je me vois à travers eux. Ils observent tout. Et j'ai tout enregistré. Je ne pouvais pas passer à côté de ce que je vivais, de ce que je voyais. Il fallait que je l'analyse, que je comprenne. Ça a toujours été mon principe. Alors, le travail a une fonction limitée, mais il a une fonction noble. Il y a un jour d'adoration pour Dieu. Et il y a des temps de prière dans la journée. Ça va? Qu'est-ce qu'il y avait avant le péché? Qu'est-ce qu'il y avait avant le péché? Hein? Regardons Genèse. Genèse 2, 15. L'Éternel prit l'homme. Donc, Isha, hein, c'est l'homme, l'humain, l'humaine, hein, c'est l'espèce humaine. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le sens de ces mots-là, c'est le métayer, c'est le fermier, c'est le responsable pour Dieu, hein, pour faire fructifier. Ceux qui nient la parole de Dieu sont devenus aveugles. Hein. Quand on regarde, il y a eu des forêts partout, il y a du pétrole et du gaz partout. On en trouve au fond des océans, on en trouve sous les montagnes et dans tous les continents. Il y a eu ces forêts, il y a eu ce jardin d'Éden. C'est la preuve indubitable, même dans les déserts. Dans les déserts, il y a du pétrole, mais c'est quoi? C'est la forêt de l'Éden qui a pourri, qui a produit cette huile qu'on appelle le pétrole, oil, hein? Le pétrole. Alors, nous étions responsables de cela. Et nous avions un principe, c'était de ne pas s'arroger le droit de définir le bien et le mal. Nous n'avions pas le droit de définir le bien et le mal. On devait respecter les lois de notre maître, de notre Seigneur. La sublime tentation a été de de faire la loi nous-mêmes, d'être déloyal, d'être hors la loi. Et ça, déloyaux. Et ça, c'est 2:17. Tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, tu seras séparé de moi. Et tu en subiras toutes les conséquences. C'est l'homme n'a pas le droit de définir ce qui est bien, ce qui est mal. Et or, donc, je répète ce que j'ai vu étant gosse, nos dirigeants, les actionnaires principaux de nos sociétés, n'avaient pas le droit de pousser les gens à travailler le samedi et le dimanche. Ils n'avaient pas le droit de détraquer la vie de famille et la vie spirituelle du peuple. Je le dis bien, ils ont participé au viol de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui se répète tout le temps. On a trouvé mieux aujourd'hui avec Internet. C'est qu'il y a des gens qui travaillent à la maison. Le télétravail. Il y a eu des enquêtes là-dessus. Il y a des gens que ça arrange pour ne pas être des embouteillages, etc. Ils travaillent chez eux sur leur ordinateur. Et on a constaté, psychologiquement, par enquête, que quand ils étaient dans le travail chez eux, ils faisaient plus de travail pour leur patron chez eux. Parce qu'il n'y a pas des blablabla, des tasses de café, du temps perdu à droite et gauche. Ils ne sont pas fatigués par les trajets. Et ils se sentent culpabilisés, ils travaillent plus. J'ai écouté des trucs comme ça, des émissions là-dessus. Ils se sentent culpabilisés et ils se sentent obligés de travailler plus. Ils travaillent en général, pour le même temps, 30% plus. Le télétravail. Pourquoi pas encore violer l'intimité de la vie de famille par un travail plus fort, plus intense. Et si même quelqu'un rouspète devant ce que je dis, je pense que le travail a pris une dimension qui mange, qui vole à l'homme le temps pour Dieu. Alors, nous sommes appelés à faire un travail ordonné, discipliné et limité. Ce travail, si nous regardons Genèse 1, verset 31, était sans chagrin. 1, verset 31, Dieu vit que tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici, tout cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Tout était béni. Or, ce qui est béni, dans les proverbes, verset 31. Tout ce qui est béni dans le livre des proverbes, on dit que tout ce qui est béni par Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Donc, le travail, la responsabilité du travail n'était suivi d'aucun chagrin, d'aucune amertume. Et qu'est-ce qui va arriver après, quand il y aura eu cette arrogance, cette prise en main des règles de la vie par l'homme, alors qu'il fallait respecter les règles de Dieu, eh bien, il va venir l'amertume. Comment ça? Eh bien, regardez dans Genèse chapitre 3. Chapitre 3, verset 17. C'est Dieu qui parle et dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Tout ce qui est actuellement sur la terre est toujours sous une règle de décadence, une règle de non-bénédiction. Puisque le péché est notre axe, notre principe de vie pour la plupart des hommes, le travail et la terre vont sous une malédiction, privés de bénédiction. Mais si vous regardez dans Zacharie 14, pour ceux qui attendent leur tour de Christ à Jérusalem, dans Zacharie 14, vous voyez que la terre est bénie si on se tourne vers la venue de Christ, si on honore le retour à Dieu. Dans Zacharie 14, c'est le contraire. La bénédiction est possible. C'est assez étonnant qu'un de nos amis missionnaires au Niamey, au Niger, nous avait dit on ne nous touche pas parce qu'ils ont entre eux, les musulmans, ils ont dit que là où il y a les chrétiens priaient, c'était bizarre, il pleuvait. Et on ne va pas toucher à eux. On ne les aime pas, mais on ne va pas toucher à eux. C'est assez étonnant que des gens qui n'apprécient pas les chrétiens disent qu'il ne faut surtout pas y toucher parce qu'alors là, il ne pleuvra plus jamais. Alors, continuons à lire, chapitre 3. Le sol sera maudit, au verset 17, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu étais pris. Donc, il y a une véritable difficulté à vivre et le travail est devenu pénible. Et le travail peut être une source de chagrin et d'amertume, alors qu'avant il n'était pas. C'est pour ça que je vous ai dit, pour un chrétien vraiment qui aime Christ, qui aime le Seigneur, normalement, dans son travail, il doit rejeter le chagrin et l'amertume. Il doit parce que ce sont les fruits du péché d'Adam et Ève. Il doit rejeter le chagrin et l'amertume. Au nom de Jésus, arrière. Car moi, je fais mon travail. C'est un don, c'est un devoir, c'est une compétence, c'est un service, c'est une oblation de moi-même pour Dieu. Mon métier est dans les mains de Christ. Ma vie de travail est dans les mains de Christ. Donc je ne veux pas être sous la malédiction d'Adam et Ève, je ne veux pas être dans le chagrin et l'amertume dans le travail. Et je ne suis pas un contestataire, un frustré en toute permanence qui voit mes copains de travail de façon négative, qui voit mon patron de façon négative. Je ne suis pas un agressif dans mon travail. Je suis un homme de paix, une femme de paix qui apporte la joie dans le travail, même s'il est pénible. Vous voyez que toute la vie du chrétien est mue par un sens profond de la parole de Dieu. Le chrétien qui aime la parole de Dieu et qui comprend bien la parole de Dieu, fait de son métier une œuvre d'excellence. Il fait de son métier une œuvre de compétence. Et il contribue à la gloire de Dieu. Et je pense que ceux qui sont athées, ceux qui sont incroyants, ou qui sont dans la détresse, reconnaissent le chrétien parce qu'il est différent. Même s'il est sourd-muet, ils reconnaissent qu'il est autre que eux. Et le témoignage dans le métier est quelque chose de primordial. Quand le Christ, plutôt, en Genèse 2, 1, 4, rend grâce parce que son œuvre est terminée. Genèse 2, 1, 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, donc les anges. L'action de grâce est terminée. Ce travail est couronné par l'œuvre de grâce. Cette action est remplie du Saint-Esprit et remplie d'adoration. C'est le travail de Christ, du Fils de Dieu, est rempli d'adoration, d'action de grâce. C'est pour ça que les textes dans Colossiens que Vincent a proposé tout à l'heure, c'est des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui rendent à Dieu, ils sont remplis, couronnés dans ce qu'ils font. Ils n'avaient pas une vie facile, ces chrétiens du premier siècle, hein? Pénibilité, souffrance, résistance de la nature, une nature pas favorable, une usure du corps dans le travail, tout cela ne sont que des fruits du péché de l'homme. Pénibilité, souffrance, résistance de la nature, décadence, décroissance de la nature, usure de la santé de l'homme, et même usure du potentiel des hommes pour le travail de la terre, tout ça n'est que le fruit du péché. Pour un retour à Dieu, il faut d'abord se reconnaître pécheur et offrir sa vie à Dieu. Et le travail prend tout un autre sens. Le travail humain, au chapitre 4 de Genèse, verset 11, n'est pas suivi de la richesse. Vous savez, c'est quelque chose que beaucoup ont compris. Dans Genèse 4, verset 11, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » C'est à Caïn que Dieu dit ça. « Quand tu cultiveras le sol, » donc c'est Caïn et ses descendants, « tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. » Vous voyez ? Donc le travail, en fait, rarement donne la richesse. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui ont compris, mais moi je n'ai pas envie de travailler, je vais faire travailler les autres. Mais moi je vais voir comment je peux en tirer du bénéfice sur les autres. Et voilà. Et si vous voulez savoir où ça culmine aujourd'hui dans nos sociétés, vous vous intéressez sur Internet à ce qu'est BlackRock. Vous allez voir sur Internet BlackRock. Vous allez voir comment ça culmine. Là, c'est le summum du profit sur l'homme sans travailler. C'est vraiment ça qui est en train de ruiner notre civilisation. BlackRock. Je n'en dis pas plus là-dessus. C'est horrible. Les principes de cette société sont horribles. J'ai passé plusieurs heures à regarder ça sur Arte. C'est horrible. Le principe du travail, c'est que il n'a pas amené à la richesse. Il a amené souvent à la pauvreté, à la modestie. Et c'est pénible. Mais l'homme, dans sa foi, dans sa relation à Dieu, l'acceptait. À partir du moment où le travail est désaxé, il n'a plus le temps de prier, il n'a plus le temps d'aller à l'église, il n'a plus le temps de lire la parole de Dieu, le travail devient une frustration. Le travail, comme il le voit qu'il n'arrive pas à s'enrichir avec le travail, le travail est détestable. Et il préfère se mettre en maladie, aller voir un docteur et prendre des tickets de sortie. Il préfère aller au chômage, il préfère, etc., prendre des tangentes. D'où une énorme défection dans le travail de beaucoup de gens. À partir du moment où le travail a perdu son sens, il n'y a plus la place de Dieu, plus la place à l'adoration de Dieu, le travail a perdu son sens, il devient détestable et toutes les excuses sont bonnes pour ne pas aller travailler. Tôt ou tard. Et même si quelqu'un, je vais aller plus loin, aime travailler et qu'il n'a plus cette relation avec Dieu, il n'a pas la foi, il travaille et il porte cela. Et ça, c'est Nietzsche qui a écrit ça. On voit Prométhée qui monte la montagne, il pousse le caillou. Nietzsche. Et puis il arrive au-dessus, le caillou redescend. Et puis il redescend, il va remonter le caillou. Et voilà la destinée que Dieu a donnée à l'homme, d'après Nietzsche. Nietzsche, fils de pasteur, dénonce Dieu comme un sadique qui donne à l'homme un travail, une existence horrible. Et Nietzsche a fait plein d'écrits, très subtils, très bien écrits. Eh bien, pourquoi le travail est-il, ressemble-t-il à celui-là de Prométhée, Prométhée qui pousse le rocher, pousse la montagne, puis tout d'un coup le rocher lui échappe, il redescend et il recommence. Vous savez que dans les camps de concentration au Struthof, en Alsace, le camp de concentration des Allemands qu'ils ont construit en Alsace, je l'ai visité, il y avait une colline, eh bien, ils faisaient ça les Allemands, les Juifs, les communistes, les chrétiens démocrates et tout ça. Ils leur faisaient monter des wagonnets de terre en haut, et puis après ils leur faisaient redescendre, des mois et des mois, pour les briser. Pour les briser, pour les anéantir. Est-ce que Dieu a voulu tout ça? C'est l'exercice même du péché. que de faire souffrir l'homme. C'est pas Dieu qui fait souffrir l'homme. Le métier, le travail n'a jamais été fait pour faire souffrir l'homme. Si aujourd'hui des gens ont travaillé jusqu'à 40 ans, 45 ans, puis leur corps est usé, complètement foutu, et ils font même à 30 ans du burn-out, c'est parce que le métier a été créé pour qu'ils soient des prométhées, pour qu'ils soient des hommes comme au camp du Struthof. Le travail a perdu son sens et l'homme est mis au service d'une aliénation, d'une destruction. Il est temps que le Seigneur Jésus revienne. Il est temps que le Seigneur Jésus, le charpentier, le menuisier de Nazareth revienne. Parce qu'il remettra tout à sa juste place. Il n'est pas dit que dans le royaume de Dieu, on va tous être dans le canapé devant la télévision. Non, on voit bien dans Ésaïe que toutes les armes sont fondues, c'est des oyo. Ésaïe. Des ou. Ésaïe, au début d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 2. Et faites bien attention, ce n'est pas des versets qui sont uniques. Il y en a des autres comme ça, hein, à d'autres places. Hein. Je lis à partir du chapitre 2 d'Ésaïe. C'est pour vous montrer que tout peut prendre un renouveau. Tout peut prendre un nouveau sens dans notre société. Rien n'est irrémédiable. Le péché n'aura pas le dernier mot. Et cette œuvre ignoble qui a fait du métier, du travail, quelque chose d'aliénant, doit disparaître. Le métier, le travail doit reprendre son sens avec Dieu. Chapitre 2 d'Ésaïe. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps, que, donc dans le royaume de Dieu, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, donc des nations, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines des nations, que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, que nous marchions dans ses sentiers. Regardez bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas simplement pour faire des prières, c'est aussi pour un monde nouveau. Alors, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole éternelle. La loi de Dieu est disparue. Avec la transgression d'Adam et Ève, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la loi divine a été mise de côté. Il faut qu'elle soit remise au centre. Hein? Il sera le juge des nations. Ce ne sera pas l'homme qui est juge de ce qui est bien et mal. Ici, c'est le Christ. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives. Pensez à toutes les armes qu'on produit maintenant, à la FN, à Estar, à Liège, et partout, qu'on vend, on en produit de plus en plus. Tout ça est condamné à être refondu. Il y aura du boulot. De leurs glaives, ils forgeront des royaux. Donc, c'est des houes, des pioches. De leurs lances, des serres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. Nous y voilà à l'écologie, hein. Nous y voilà au retour à la terre, hein. Nous y voilà à une vie paisible, structurée, comme sur les peintures qu'on voit chez les vieilles personnes de 95 ans, cette peinture où l'homme et la femme sont au milieu du champ. Et naturellement, ils ont une vie dure, mais en même temps, de paix, et ils sont en train de prier. Ils travaillaient, peut-être dur, mais ils travaillaient en Dieu. Et qui est rentré? Qu'est-ce qu'il faisait encore? Il mangeait. Il mangeait avec Dieu, il priait. Et puis, ils allaient à leur église. Et ils cherchaient Dieu tout le temps. Ils étaient avec Dieu. Et Dieu les bénissait. Et donc, le retour, l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ces textes-là, vous les retrouvez. Hein? Ésaïe 21. Le travail n'aurait-il plus de sens? Oui, aujourd'hui, le travail de plus en plus perd son sens et il détruit les hommes. Mais le travail aura-t-il un sens? Oui, il aura un sens. Oui. Je me suis peut-être trompé, c'est pas là. C'est dans une autre place dans Isaïe. Je vais regarder ici. C'est le même thème, c'est dans Isaïe. Dans Isaïe. Mais c'est pas à cette place, je me suis trompé dans ma note. Isaïe.
Je pense
51. Le thème se répète aussi chez Michée, etc. Et c'est pas. Si on regarde ça, on veut dire oh, c'est des belles paroles, c'est symbolique et tout ça, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas de portée historique, comme a dit Origène d'Alexandrie. Et c'est le fondement des dogmes. Du dogme de l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe et l'Église catholique et l'Église protestante officielle, ces prophéties-là n'ont qu'un sens allégorique, symbolique. Ça n'a pas un sens historique. Rendez compte ? Mais alors ça sert à quoi de croire si on ne retourne pas à des bases saines avec Dieu hein, quand Christ est revenu ? Alors, Ésaïe 51, quel verset ?
Quatrième,
je
pense.
Oui, c'est le même sens, hein. Mais mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. J'établirai ma loi pour la lumière du peuple. Ma justice est proche, mon salut va paraître, mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Lève les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, ses habitants périront comme des mouches, et mon salut durera éternellement, ma justice n'aura pas de fin. Alors, évidemment, il y a un autre texte, j'en ai perdu la trace, dans Isaïe, pour dire qu'il y a un renouveau au niveau du travail, un renouveau dans le sens du travail. Et ça, c'est important. C'est pas simplement une vie nouvelle dans la foi. Ce n'est pas simplement une vie nouvelle dans la relation à Dieu. C'est une vie nouvelle dans la relation à la nature. Les écologistes aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de gens voudraient ça. Ils le cherchent par eux-mêmes, par leur force. Ils ne vont pas le trouver sans le Christ. Ils ne vont pas le trouver sans le Christ. Et c'est très séducteur. Satan utilise ce besoin des hommes, ce besoin de paix, ce besoin de retrouver une bonne relation à la nature, Satan utilise ça pour donner une écologie sans Dieu, une écologie sans la foi. Mais elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Alors, Michée, chapitre 4, si quelqu'un veut lire, chapitre 4, Michée.
Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Les nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il sera juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et n'en apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité.
Vous imaginez ? Et donc, c'est le même sens que dans Ésaïe, au chapitre 2. Ésaïe, il est à Jérusalem, Michée, il est dans les tribus du Nord. Hein ? Moréchet de Gath, il a prêché dans le Nord. Dieu disait la même chose par deux hommes qui ne se fréquentaient pas, qui ne se sont pas fréquentés. Les amis, ce que je veux dire, c'est que le travail a finalement un autre sens en Christ. Il faut le garder, il faut aller au travail avec un autre sens. C'est un don, un devoir, une compétence, un service, une oblation. Et ce qu'il y a, si nous vivons dans des conditions qui se dégradent, où l'argent est de plus en plus une règle dure, et où on tombe dans la règle de Prométhée, ce travail inutile, ça redescend, il faut recommencer, ça descend, il faut recommencer, inlassablement, jusqu'à créer la désespérance, créer le désespoir, créer la dépression chez les hommes. C'est une œuvre d'anéantissement due au péché. C'est le résultat du péché. Un monde dans le péché ne va que vers sa perte. Un monde qui attend Christ et qui reçoit Christ, et comme il ne le demande pas forcément, le monde ne cherche pas Christ. Certaines âmes, oui. C'est Christ qui cherche le monde. Et c'est Christ qui revient et qui établit à Sion sa loi, sa lumière. Et un nouveau monde, une autre façon de vivre. Donc que l'action de grâce fasse partie de notre vie, que l'espérance d'un monde nouveau fasse partie de notre vie, qu'un travail nouveau, qu'un corps usé, fatigué par le travail, redevienne nouveau, tout ça c'est l'œuvre de la résurrection en Christ. C'est l'œuvre de la puissance du ressuscité. Si nous croyons en cela, nous avons le bonheur. Nous avons le vrai bonheur. Jésus de Nazareth, menuisier charpentier, n'est pas un hasard de l'histoire. Il est venu à Bethléem et puis ensuite à Nazareth après avoir été banni, avoir été exilé, revenir comme un réfugié à Nazareth, vivre dans des conditions difficiles. Il a vécu son travail dans le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, parce qu'il est la parole, dans la prière, dans l'amour des autres, dans la compétence, dans le service, dans l'action de grâce. Et nous observerons cela une autre fois lors d'une autre prédication. Quelles étaient les attitudes de Jésus qui peuvent définir comment il travaillait? Vraiment, Jésus est le symbole de l'ouvrier de Dieu, tel que nous devons l'être. Soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut prier...